Je sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est la mode.
Mais il y en a pour tous les goûts.
C'est quoi la mode?
La mode repose sur le mimétisme et le jeu. Et c'est un fait social, dit fait social total, car il implique profondément les individus et touche simultanément aux environnements artistiques, économiques, politiques, sociologiques, des groupes sociaux concernés, mais aussi de ceux qui sont à leur contact.
Ah, oh,
oh, oh.
L'écologie, c'est une mode?
Non, c'est une nécessité.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture. Attention au départ.
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par la minute convention collective, pour nous rappeler les temps de fonction des délégués syndicaux selon la convention collective nationale propreté et services associés. Cet instant sera suivi par la rubrique environnement, dans laquelle Anne-Laure nous parlera toilettes sèches. Rubrique suivie par la lecture de deux discours politiques prononcés par Jacques Chirac pendant son mandat présidentiel. Le premier célébrant l'abolition de l'esclavage, le second sollicitant une prise de conscience mondiale en faveur du développement durable. Et pour clore l'émission, ce mois-ci, vous pourrez découvrir un conte d'Orient de Djihad Darwish et Catherine Louis intitulé « Le chameau et le sel ». Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Recommençons sur de bonnes bases avec la minute convention collective. Convention collective nationale des propretés et services associés du 26 juillet 2011. Article 2.1.3. Le temps de fonction des délégués syndicaux. Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux est au moins égal à 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 50 à 150 salariés, 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements employant habituellement 151 à 499 salariés, 24 heures par mois pour les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 500 salariés. Ce temps de fonction est payé comme temps de travail. Le temps passé pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise n'est pas déduit du crédit d'heure mensuel. Le temps de trajet des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au comité social et économique pour se rendre aux réunions avec l'employeur sont récupérés ou rémunérés. Les temps d'attente entre les divers modes de transport aussi. Pour les réunions syndicales, à concurrence d'une absence mensuelle et sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 2 jours à l'avance, les délégués syndicaux peuvent assister à des réunions de leur syndicat. Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les délégués syndicaux peuvent assister au congrès de leur organisation syndicale et aux assemblées générales de leur syndicat.
Bravo, les propretés et services associés! Bravo!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Eh ben, s'il y avait un petit peu plus de personnes comme ça et un peu moins de... Comme quoi?
Fatigué.
Fataliste.
Fabergé?
Non.
Irréfléchi.
À bout de souffle.
Mal élevé.
Mal élevé.
Mal aimé.
Déjà mort.
Ils ne savent pas rêver.
Ils n'ont pas appris.
Ils n'ont pas appris.
Les gens sont si moches que ça, maman?
Il y a des moments plus durs. Il y a des gens plus durs.
C'est quoi qu'on entend?
Une bande son.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Parlons toilettes sèches.
Peut-être que je devrais
premier abord dire que oui, la toilette sèche, c'est quelque chose qui revient un peu à la mode. C'est les toilettes qui existaient avant l'apparition des toilettes qu'on connaît, donc il y a une cinquantaine d'années, tout le monde avait des équivalents toilettes sèches. Donc si je commence directement par cette info, c'est parce que c'est toujours compliqué de parler de toilettes et d'essayer de faire passer ce message de façon positive. Et bien sûr, l'argument principal, c'est un argument écologique, la non-consommation d'eau. C'est 6 litres de flotte, un caca qu'on tire à la chasse d'eau. Vous pouvez imaginer que c'est la quantité pour 4 humains dans une journée. Je trouve que c'est l'argument le plus prégnant qu'il y ait pour passer aux toilettes sèches, à la préservation de l'eau potable. C'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on est en toilettes sèches, on comprend tout l'intérêt, et là qui est vraiment environnemental et qu'on souhaite avoir un jardin luxuriant, en bonne santé, la toilette sèche va permettre de créer de l'engrais naturel. Je vais essayer, pour ceux qui connaissent mal, de décrire les étapes d'une toilette sèche. Donc déjà, à construire une toilette sèche, il faut vraiment avoir des compétences de base, hein, bricolage, vraiment de base, savoir clouer 2-3 planches entre elles, et puis concrètement avoir un seau qui va venir récupérer notre pipi, notre caca, etc. Pour les conseils, la structure en bois, j'ai envie de dire, vous trouverez des tutoriels sur internet, etc. C'est pas compliqué de construire une toilette sèche. Ça peut se faire avec du bois de palette, du bois de récup, donc 0 euro, à part quelques clous, quelques vis. Et le conseil que je donne, moi-même, j'ai évolué dans ce truc-là, c'est le seau. Qu'est-ce qu'on prend comme seau ? Au tout premier abord, j'avais décidé de prendre un seau en acier galvanisé. J'en suis revenue, en acier galvanisé, un petit peu garder les odeurs. Donc ça peut être un petit peu gênant. Alors que, suite à ça, j'ai acheté un seau en plastique, un seau qu'on appelle le seau du maçon, donc un seau avec une anse. Hein. C'est important d'avoir la anse pour pouvoir déplacer le seau quand il faut le vider. Et le plastique ne garde pas les odeurs. Alors, même si c'est pas trop bon kiff le plastique, là, ça marche bien, puis ça tiendra très longtemps dans le temps aussi. Voilà un peu pour l'aspect technique. Pour continuer, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas, donc comment ça se passe une toilette sèche ? On va aux toilettes, on fait ce qu'on a à faire, et plutôt que d'envoyer de l'eau, nous allons mettre sur nos déjections des copeaux de bois ou de la sciure de bois, de la matière végétale. Là encore, en termes d'écologie et de roulement des matériaux, souvent les menuiseries du coin ou les gens qui travaillent le bois, des ébénistes, etc., donc produisent énormément de copeaux de différentes essences, du pin, du chêne, etc. Et nombreuses menuiseries vont revendre les copeaux, mais de nombreuses autres menuiseries donnent les copeaux gratuitement. Ils proposent aux gens de venir chercher les copeaux gratuitement. Eux, ça leur permet de laver leur atelier, entre guillemets. Donc quelque part, tout le monde s'y retrouve. Ce qui fait que nos toilettes sèches nous coûtent 0 euro. À part, effectivement, l'essence que je vais dépenser pour aller chez ce menuisier. Mais voilà, j'y vais 2 fois l'année. J'ai cherché dans des très grands sacs des copeaux de bois. Voilà. Donc on met ces copeaux de bois sur nos déjections. Une fois que le seau est à peu près plein, nous, ce qu'on a choisi, c'est les composts que vous fournissent vos communes gratuitement. Les bons vieux composts classiques qui sont verts, les bacs à compost avec un couvercle. Il faut un couvercle. On prend notre seau, on vient vider notre seau dans ce compost. Une fois qu'on a notre seau qui est vide, bien sûr, il y a dedans des traces de copeaux. Il faut laver ce seau. Donc si on est logique, ce serait idiot de notre part d'utiliser l'eau potable pour laver ce seau. Donc nous, le hasard fait que proche de notre compost, eh bien une gouttière, je prends un petit arrosoir qui est spécifique pour ça et je remplis mon seau d'eau de pluie. Je passe un petit coup d'éponge vite fait et après je viens vider mon seau d'eau de pluie dans un parterre. Donc au passage, l'eau de pluie que j'ai utilisée pour laver mon seau à caca, eh bien après, hop, on fout ça dans les plantes quoi. Je continue sur les autres avantages. Alors le truc qui est génial, c'est que qu'est-ce qu'on fait une fois que notre bac à compost vert, le gros bac communaux dont je vous parlais, une fois qu'il est plein, ça peut se remplir assez vite. Hein. En 3 mois, il peut être plein, ce bac. Eh bien tout simplement, les vers de terre remontent dans le bac à compost et ils font leur travail de vers de terre. Donc ils mangent les copeaux, ils mangent aussi nos excréments. Bref, ils vont faire que cet amas de caca et de copeaux deviennent du compost. Et ça, c'est un truc qui est impressionnant. Et vraiment, tant que vous ne le ferez pas, vous ne le comprendrez pas. Il a fallu vraiment que je vive pour le comprendre. Le moment où on vide ce bac à compost, il faut se dire que c'est juste du caca, du pipi et des copeaux. il n'y a aucune odeur. Et quand on met notre main dedans, on a l'impression d'une merveilleuse terre d'une qualité de fou. Et ça, c'est que le travail des vers de terre. Comment l'odeur part ? Là, je manque de compréhension du truc. Ce qui est certain, c'est que quand on met notre main là-dedans, on a l'impression de prendre de la terre et pas du tout du vieux caca décomposé. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, l'intérêt, c'est que ça va être un engrais merveilleux. On met du fumier, du caca de poule, enfin, c'est les engrais classiques qu'on connaît en agriculture. On est pareil, nous sommes des animaux, nous les humains, donc finalement, nos déjections à nous sont aussi de l'engrais pour la terre. Donc on vide ce bac à compost dans nos parterres, dans différents parterres. On évite de tout mettre dans le même parterre parce que ça peut être très riche en engrais. On dissémine comme ça nos déjections qui ont été compostées pour en faire de l'engrais naturel dans tout le jardin. Après, et alors là, on est peut-être dans un argument un peu plus philosophique qui va peut-être être un peu plus dur à faire passer comme message. Je pense qu'on est dans une société qui crée des tabous que personnellement je ne comprends pas. Par exemple, j'ai un peu de mal à comprendre le tabou de l'idée de faire caca. On fait tous caca, je comprends pas pourquoi c'est finalement aussi tabou, alors qu'on le partage tous, et que c'est juste notre fonctionnement. C'est un principe mécanique de base. L'humanité a créé un tabou autour de ça, c'est comme ça, il est là, mais je pense qu'on peut le déconstruire. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que je trouve que ne pas vouloir voir son caca, je pense que c'est significatif d'une société dans laquelle il y a beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas voir. Des sortes d'œillères comme ça qu'on se met alors qu'on devrait essayer d'avoir l'esprit plus ouvert. Parce que hein, la base d'une bonne santé, c'est des selles qui sont bien moulées, etc. Et de pouvoir les observer, c'est un garant de savoir si on est en bonne santé. Et voilà, là, la toilette sèche nous oblige à voir. Et donc, peut-être que des fois, nous oblige à voir, déjà, ça peut défaire ce tabou. Et en plus, peut-être pouvoir mieux savoir comment notre corps fonctionne, quelque part. Je pense qu'on peut vraiment dupliquer cet exemple à plein d'autres choses. Si on commence déjà à enlever nos œillères par rapport à des principes biologiques de base, ça peut nous aider à enlever nos œillères sur d'autres principes. J'ai juste envie, dans l'idée, de semer une petite graine de réflexion.
Allumeurs de réverbères.
Les discours politiques !
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où ?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers ?
Des résistants, avec un grand R.
Oh !
Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils s'occupent des autres.
Oh !
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Mesdames et messieurs, ici même, au Sénat, le 10 mai 2001, à l'unanimité, la représentation nationale a solennellement qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité. La France a ouvert la voie aux autres nations. Mémoire et justice devaient être rendues à ces millions et ces millions de victimes anonymes de l'esclavage. Aujourd'hui, 10 mai 2006, la France célèbre la première journée consacrée en métropole à la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. La traite occidentale, du début du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, ne fut ni la première, ni la seule manifestation de la traite négrière qui s'est étendue sur plus d'un millénaire. Et elle a nécessité, c'est vrai, des complicités multiples, jusque dans les pays d'origine des esclaves. Mais par le caractère systématique qu'elle a revêtu, par son extension géographique, la traite occidentale a exercé une influence sur l'évolution de tout notre monde. Le commerce triangulaire a été une entreprise de déshumanisation qui a duré plusieurs siècles et à l'échelle de plusieurs continents. Une tragédie qui a vu la déportation en masse d'hommes, de femmes, d'enfants, arrachés à leurs terres, aux leurs et convoyés comme des animaux. En ravalant les esclaves au rang de biens meubles, le Code noir promulgué en France en 1685 leur déniait la qualité d'homme. La légende biblique elle-même fut pervertie. Pour légitimer ce trafic odieux, certains prétendirent que les Noirs descendaient de Cham, maudit par son père Noé. Et voilà comment l'on essaya de justifier l'infâme et l'injustifiable. Ne nous y trompons pas. Aujourd'hui encore, cette tragédie a des échos. En Occident notamment, elle a donné corps aux thèses racistes les plus insupportables, en contradiction absolue avec les idées des Lumières. En privant l'Afrique d'un sang vigoureux, elle a épuisé ce continent. Et aujourd'hui encore, des formes d'esclavage et de travail forcé subsistent dans le monde contre lesquelles nous devons plus que jamais nous mobiliser. Dans ce drame, pourtant, sont nés de nouveaux peuples et une culture forte et originale. Cette première journée, à la mémoire de l'esclavage et de ses abolitions, constitue une étape très importante de notre pays. D'autant plus importante que, depuis toujours, l'outre-mer a partie liée avec la République et participe à la nature même de notre identité française. J'ai voulu que tous les pouvoirs publics se mobilisent à l'occasion de cette commémoration pour signifier la participation de la nation tout entière à cette prise de conscience empreinte de gravité et de fraternité. Aujourd'hui, auront lieu de très nombreuses manifestations publiques. Mesdames et messieurs, regardez tout notre passé en face est une des clés de notre cohésion nationale. C'est une force supplémentaire pour notre avenir, car c'est la marque de notre capacité à avancer ensemble. Nous devons regarder ce passé sans concession, mais aussi sans rougir, car la République est née avec le combat contre l'esclavage. 1794, 1848, la République, c'est l'abolition. Nous sommes les héritiers de ces républicains. Nous pouvons être fiers de leur combat pour les droits de l'homme. Aujourd'hui encore, leur engagement nous oblige. Cette première commémoration n'est pas un aboutissement, c'est un début. C'est l'affirmation nécessaire d'une mémoire de l'esclavage partagée par tous les Français. Quelle que soit notre origine, nous sommes tous réunis par une identité majeure, l'amour de la France, la fierté de vivre ici, le sentiment de communauté nationale, le respect des lois de la République. Le combat de la République pour l'égalité, l'unité, la fraternité, la liberté, c'est un combat plus que jamais actuel, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Pour que vive la République, il nous faut lutter sans relâche contre tout ce qui peut l'empoisonner. Les discriminations font perdre la foi républicaine à ceux qui en sont victimes. Les discriminations, le racisme, c'est la négation de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons construit, de tout ce qui nous fait vivre en tant que nation. Pour vaincre les préjugés, il faut lutter contre l'ignorance, contre l'oubli. C'est aussi pour cela que nous avons besoin de cette journée en mémoire de l'esclavage. Mesdames et messieurs, la France, c'est l'exigence. Exigence de mémoire, exigence de justice, exigence de vérité et de fraternité. C'est parce qu'elle a toujours porté ce message qu'elle occupe dans le monde une place singulière. Face à l'infamie de l'esclavage, la France a été au rendez-vous, la première. Ce combat, elle continuera à le mener, pour la mémoire et contre toutes les formes modernes de l'oubli ou de l'esclavage. C'est sa vocation et c'est sa grandeur. Et au-delà de ce combat, à travers le souvenir de l'esclavage et de ses abolitions, c'est aussi la diversité française que nous célébrons aujourd'hui. La diversité ferment d'unité. Une diversité qui fait notre force et dont nous pouvons et devons être fiers. Je vous remercie.
Déclaration prononcée le 10 mai 2006 par Jacques Chirac.
Mesdames et messieurs, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. L'Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. L'économie américaine, souvent boulimique en ressources naturelles, paraît atteinte d'une crise de confiance dans ses modes de régulation. L'Amérique latine est à nouveau secouée par la crise financière et donc sociale. En Asie, la multiplication des pollutions, dont témoigne le nuage brun, s'étend et menace d'empoisonnement un continent tout entier. L'Afrique est accablée par les conflits, le sida, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Notre responsabilité collective est engagée. Responsabilité première des pays développés, première par l'histoire, première par la puissance, première par le niveau de leur consommation. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Responsabilité des pays en développement aussi. Nier les contraintes à long terme au nom de l'urgence n'a pas de sens. Ces pays doivent admettre qu'il n'est d'autre solution pour eux que d'inventer un mode de croissance moins polluant.
10 ans après Rio, nous n'avons pas de quoi être fiers. La mise en œuvre de l'agenda 21 est laborieuse. La conscience de notre défaillance doit nous conduire ici, à Johannesburg, à conclure l'Alliance mondiale pour le développement durable. Une alliance par laquelle les pays développés engageront la révolution écologique. La révolution de leur mode de production et de consommation. Une alliance par laquelle ils consentiront l'effort de solidarité nécessaire en direction des pays pauvres. Une alliance à laquelle la France et l'Union européenne sont prêtes. Une alliance par laquelle le monde en développement s'engagera sur la voie de la bonne gouvernance et du développement propre. Nous avons devant nous, je crois, 5 chantiers prioritaires. Le changement climatique, d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. De Johannesburg doit s'élever un appel solennel vers tous les pays du monde, et d'abord vers les grands pays industrialisés, pour qu'ils ratifient et appliquent le protocole de Kyoto. Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre. 2 chantiers. L'éradication de la pauvreté. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. Appliquons les décisions de Doha et de Monterrey. Augmentons l'aide au développement pour atteindre dans les 10 ans au maximum les 0,7% du PIB. Trouvons de nouvelles sources de financement, par exemple par un nécessaire prélèvement de la solidarité sur les richesses considérables engendrées par la mondialisation. 3e chantier, la diversité. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes 2 patrimoines communs de l'humanité, toutes 2 sont menacées. La réponse, c'est l'affirmation du droit à la diversité et l'adoption d'engagements juridiques sur l'éthique. 4e chantier, les modes de production et de consommation. Avec les entreprises, il faut mettre au point des systèmes économes en ressources naturelles, économes en déchets, économes en pollution. L'invention du développement durable est un progrès fondamental au service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des technologies dans le respect du principe de précaution. La France proposera à ses partenaires du G8 l'adoption, lors du sommet des Vianges 20 prochain, d'une initiative pour stimuler la recherche scientifique et technologique au service du développement durable. 5e chantier, la gouvernance mondiale. pour humaniser et pour maîtriser la mondialisation. Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble. Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la composent. Pour assurer la cohérence de l'action internationale, nous avons besoin, je l'ai dit à Monterrey, d'un Conseil de sécurité économique et sociale. Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de l'environnement. Pour vérifier l'application de l'agenda 21 et du plan d'action de Johannesburg, la France propose que la Commission du développement durable soit investie d'une fonction d'évaluation par les pairs, comme cela existe par exemple à l'OCDE. Et la France est prête à se soumettre, la première, à cette évaluation. Au regard de l'histoire de la vie sur Terre, celle de l'humanité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, par la faute de l'homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L'homme, point avancé de l'évolution, peut-il devenir l'ennemi de la vie? Et c'est le risque qu'aujourd'hui nous courons par égoïsme et par aveuglement. L'homme est apparu en Afrique, voici plusieurs millions d'années. Fragile et désarmé, il a su par son intelligence et ses capacités essaimer sur la planète entière et lui imposer sa loi. Le moment est venu pour l'humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations dont chacune doit être respectée, le moment est venu de nouer avec la nature un lien nouveau, un lien de respect et d'harmonie, et donc d'apprendre à maîtriser la puissance et les appétits de l'homme. Et aujourd'hui, à Johannesburg, l'humanité a rendez-vous avec son destin. Et quel plus beau lieu que l'Afrique du Sud, cher Thabo Mbeki, cher Nelson Mandela, pays emblématique pour son combat victorieux contre l'apartheid, pour franchir cette nouvelle étape de l'aventure humaine. Je vous remercie.
Déclaration prononcée le 2 septembre 2002 par M. Jacques Chirac.
Take one moment, look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Partout à travers le monde, des peuples étaient nés, des cultures, des savoirs, des langues, des histoires. S'entremêlant sur Terre, ils apprirent à échanger.
Des cultures, des savoirs, des langues, des histoires.
Et un jour, des quatre coins du globe, tous nourris de la même volonté de vivre bien, ils se rassemblèrent pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux œuvrer ensemble. Ils se rassemblèrent en un lieu que l'on nomma
les allumeurs de réverbères.
For the one, ha-ha, for the one, ha-ha, for the one, ha-ha, for the one, ha-ha.
Conte d'Orient de Jia Darvish et Catherine Louis. Le chameau et le sel. Mustapha était un homme taiseux,
comme le sont souvent les gens du désert. Il récoltait des plaques de sel dans un lac à moitié desséché, il en chargeait son chameau et voyageait pendant des jours par monts et vallées pour les vendre en ville. C'était son métier, c'est ainsi qu'il vivait. Dans une plaine où son maître s'arrêtait régulièrement pour se reposer, le chameau avait lié amitié avec un renard qui avait creusé une tanière au pied d'un cyprès. Ils se retrouvaient avec plaisir et se racontaient leurs joies et leurs malheurs. Un jour, en le voyant maigre et affaibli, le renard s'inquiéta. Le chameau lui confia sa vie de misère et le chargement qui faisait ployer son dos. « Tu m'as dit que tu transportais de grandes plaques de sel ?» demanda le renard. « Oui, c'est lourd et cela irrite ma peau. Est-ce que sur ton chemin, tu traverses un ruisseau ?»« Un ruisseau ? Dis plutôt des ruisseaux et des mares qu'il faut franchir en faisant attention à ne pas glisser. »« Bien, à partir de maintenant, c'est le contraire que tu dois faire. À chaque ruisseau, à chaque mare, laisse-toi tomber. Couche-toi et roule sur le dos si tu peux. » Ton fardeau ne sera que plus léger quand tu te relèveras, parce que le sel fond dans l'eau. Répète cette opération et tu te trouveras soulagé. » Le chameau remercia le renard et les jours suivants, il suivit son conseil à la lettre. Chaque fois qu'il passait par un ruisseau, il se laissait tomber et refusait de se lever malgré les coups de bâton et les insultes. Ainsi, lorsqu'il arrivait à destination, son fardeau était diminué de moitié. Le chamelier ne savait que faire. Il ne parvenait plus à honorer convenablement les commandes que les commerçants lui passaient. Or, un jour, un marchand le pria de lui rapporter de la laine de mouton. Le chargement était impressionnant, mais plus léger que les plaques de sel. Le chameau était ravi. En arrivant au premier ruisseau, il se laissa tomber comme à son habitude. Mais lorsqu'il essaya de se relever, son bagage avait doublé de poids, car la laine avait absorbé beaucoup d'eau. Il comprit alors que la consigne, qui était efficace pour le sel, ne l'était pas pour la laine. Le marchand aurait pu savourer sa vengeance, mais voyant son chameau se débattre sous son fardeau, il eut pitié de lui. Il acheta une belle chamelle blanche pour répartir ses chargements entre les deux bêtes. À compter de ce jour, le chameau et la chamelle marchèrent ensemble d'un pas léger, en se regardant du coin de l'œil. On raconte qu'une grande histoire d'amour est née entre les deux.
Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbères. Pour réécouter les épisodes précédents, rendez-vous sur le site internet allumeurs-de-reverbères.fr ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical par Happy London Call. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.